cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polac qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM présente aujourd'hui l'évolution des grandes exploitations betteravières.
Au cours des émissions précédentes, nous avons expliqué comment le système des quotas avait permis d'éviter la surproduction des betteraves sucrières. Malgré la progression constante des rendements à l'hectare, les différentes négociations nécessaires à la mise en place de ce système, qui limitait la production tout en garantissant les prix, renforcera le syndicat des planteurs de betteraves. Les dirigeants betteraviers de l'Oise, prenant conscience de la nécessité d'avoir des outils de transformation performants, participeront activement à la restructuration des industries sucrières. L'ancien directeur du syndicat betteravier de l'Oise raconte ces événements en rappelant tout d'abord le déclin, dès la fin des années 40, des sucreries et des distilleries. Pour la plupart, ces industries avaient été fondées par de grands agriculteurs sous la forme de sociétés anonymes, dans lesquelles les cultivateurs étaient actionnaires.
C'était cette petite structure d'usine qui travaillait, disons, entre 300 et 500 tonnes de betteraves par jour, donc tout petit, et qui était, disons, un petit peu dépassé économiquement, structurellement. Puis, par la force des choses, bah, petit à petit, ça a évolué, et beaucoup se sont trouvés en difficulté. Au travers de ça, il y a cette restructuration de l'industrie sucrière dans l'Oise, qui était intervenu à partir de, disons, autour de 1960. Moi, je me souviens très bien de ça parce que il y a eu une réunion à la préfecture de l'Oise avec le ministre de l'époque qui était Pisani, qui a jeté un pavé dans la mare à la préfecture, et j'y étais, je me souviens, et donc ça date de cette époque-là, où il a dit, vous qui êtes touché par le problème de la restructuration, une usine qui fait moins de 1000 tonnes jour, c'est pas la peine de continuer, vous ne tiendrez pas dans l'économie actuelle, future. Alors c'était le déclenchement du processus. Tout ça a mis quelques années, ça a duré 10 ans, disons. Ça ne se fait pas toujours facilement. Et les dirigeants de l'époque ont donc décidé de participer à la restructuration. Ils sont arrivés, si vous voulez, à conclure des contrats. À chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça, il y a eu des contrats de 5 ans ou de 10 ans de fait pour le maintien des conditions. Ce qui est important pour les cultivateurs, c'est en fait le côté financier, c'est-à-dire la gratuité des transports, qui n'est pas négligeable, les dates de paiement, les avantages qu'ils peuvent avoir à certaines usines par rapport à d'autres. Et ça a été concrétisé dans des accords précis, hein, au moment où il y a eu les négociations pour les restructurations, à chaque fois, il y a eu des contrats qui ont été faits pour maintenir les conditions acquises.
Il existe aujourd'hui 4 sucreries dans l'Oise. Celle de Brel, de Chevrières, de Berneuil-sur-Aisne et dans le Valois, celle de Vaucienne, ainsi qu'une distillerie à Barbery. Toutes les sucreries ont été absorbées par des groupes agroalimentaires français ou européens. De nouveaux contrats ont pu être négociés avec ces grands groupes, mais dans la phase actuelle, il s'agit moins de conserver tous les avantages acquis pour chaque sucrerie que d'harmoniser les contrats.
La décision de Bruxelles d'imposer 15% de jachère sur l'ensemble des terres arables, en dehors des surfaces consacrées aux productions sous contrat avec des industries, sera vécue beaucoup plus difficilement par les agriculteurs. Dans notre première émission, les historiens nous ont rappelé l'enthousiasme des agriculteurs qui découvraient, vers 1860, les bienfaits de la culture des betteraves à sucre qui fera reculer la jachère jusqu'à la supprimer. Or, depuis quelques années, les manifestations agricoles et des panneaux dans les champs crient au scandale contre les jachères imposées par la politique agricole commune pour limiter la surproduction.
La décision de geler une partie des sols est vécue comme un contresens et une rupture idéologique par les agriculteurs, dont tous les efforts tendaient depuis 1950 vers une productivité toujours plus grande. En effet, ces mesures remettent en cause deux fondements de l'agriculture des 30 dernières années. Atteindre le plus haut niveau de performance et le maintien des prix européens à un niveau supérieur aux prix mondiaux. Mais depuis 1976, l'énorme croissance de la production tant animale que végétale a entraîné une véritable explosion des dépenses budgétaires de la communauté européenne en faveur des agriculteurs, au point qu'un système de quotas de production sera mis en place pour le lait dès 1983. Cette première mesure sera suivie quelques années plus tard par l'obligation de laisser en jachère une partie des terres, mesure qui touche particulièrement les exploitations dans notre région, dans lesquelles la production de blé représente 30 à 40% de l'assolement annuel.
Dans un contexte de concurrence commerciale internationale croissante, la perspective du renforcement des mesures réglementaires de la Communauté européenne pour l'agriculture laisse planer de nombreuses inquiétudes dans l'esprit des agriculteurs. Mais c'est en période difficile que l'on recherche des solutions nouvelles et parfois le recours à des solutions anciennes. Nous avons décrit l'intérêt des cultivateurs dans la période de marasme de 1948 pour l'utilisation de matériel en commun dans le cadre des CUMA, suivi par une période glorieuse où chacun retournait à l'individualisme en investissant dans toutes les machines nécessaires à l'entreprise, au point d'être souvent suréquipé. Plusieurs facteurs qui se conjuguent ramènent aujourd'hui les agriculteurs vers des solutions collectives. Pour comprendre cette évolution, reprenons l'exemple des betteraves.
Depuis 10 ans environ, les derniers problèmes techniques posés par la culture betteravière ont été résolus par l'apparition, il y a environ 10 ans, de l'arracheuse chargeuse automotrice, rêvée depuis bien longtemps par le premier directeur de la CUMA de Nanteuil.
Alors les machines, parce que moi, je faisais partager ça à mes gens ici, nous étions les pionniers de l'automotrice dans tous les domaines. Je voulais l'automotrice dans... Vous voyez, les presses ramasseuses de bail, automotrices. Les appareils de traitement, automoteurs. Les moissonneuses batteuses, automotrices. Toutes automoteurs, indépendants. Parce que c'était ça la mécanique. C'était supprimer la dépendance de la mécanique d'avec les moyens de traction. Puisqu'on avait supprimé les chevaux, il fallait aller jusqu'au bout.
La première arracheuse de betteraves, automotrice, faisait 1 hectare à l'heure, mais devait encore être suivie par 2 bennes qui recevaient les betteraves pour les emmener en bout de champ, soit un chantier de 3 hommes. Mais depuis 2 ans, on a franchi encore un nouveau seuil.
Maintenant, on a quand même un matériel très, très fiable qui décolle, qui fait les 3 opérations H, qui met en trémie et qui vous met ça en bout de champ.
Cette machine, dénommée l'intégrale débardeuse, avance plus lentement, au rythme de 50 à 60 arts par heure. Mais elle fonctionne avec un seul ouvrier, puisqu'elle n'a plus besoin du relais de benne pour transporter les betteraves en bout de champ. Il est facile d'imaginer que si les performances sont exceptionnelles, son coût l'est aussi. Et c'est d'abord à cause de cela que pour utiliser ce matériel, les agriculteurs d'aujourd'hui font à nouveau appel soit à des entreprises de travaux agricoles, soit à la CUMA de Nanteuil. Il n'est plus question d'acheter individuellement ce type de matériel, sauf si on veut l'amortir en faisant des travaux rémunérés chez d'autres exploitants.
Il y a à la CUMA trois gros chantiers d'arrachage de betteraves qui leur fait chacun, où ils approchent les 200 hectares par matériel. Ils font à peu près 500-600 hectares d'arrachage de betteraves. Et ils ne répondent pas, ils ne peuvent pas répondre à la demande. Peut-être qu'ils ont besoin d'un quatrième matériel.
Enfin, la décision de faire réaliser ou non le gros chantier de l'arrachage des betteraves par des entreprises extérieures est directement liée aussi à la réduction drastique des ouvriers agricoles dans les grandes fermes. Car s'il fallait un ouvrier pour cultiver 9 hectares vers 1925, un ouvrier pour 15 hectares en 1955, aujourd'hui on peut mener les travaux sur 125 à 150 hectares avec un seul chauffeur.
Parallèlement, dans les exploitations moyennes de notre région, c'est-à-dire de 100 à 180 hectares, on voit réapparaître d'anciennes formes d'entraide, comme l'utilisation d'une ou de plusieurs machines entre deux exploitants cultivant sensiblement la même surface. La diversification des productions est aussi une préoccupation importante de cette couche d'agriculteurs aujourd'hui, mais elle a aussi des précédents. En effet, dans les années 50, de nombreux exploitants optaient pour une spécialisation céréales-betteraves. Mais quelques-uns intensifiaient la production laitière, passaient des contrats de culture légumière avec des conserveries ou consacraient des surfaces de plus en plus grandes à la production fruitière, comme le raconte un chef de culture de Sennevières, embauché pour développer ce secteur.
Et puis là, il pouvait le besoin de se faire aider, d'autant plus qu'il avait des idées d'entreprises qui débordaient le cadre du blé et de la betterave. Il avait notamment dans son idée de créer un verger, chose ce qu'il a fait. Il avait déjà planté 1 ou 2 hectares avant que j'arrive, et puis après on a continué de planter. Disons, on pourrait presque dire au fur et à mesure qu'au départ que la betterave générait de l'argent, on plantait des vergers.
D'accord.
C'est schématique, mais enfin, c'est aussi.
Au début, c'est ça. De combien d'hectares?
Il y a 350 hectares, mais actuellement, si vous voulez, il y a 90 hectares de vergers de plantés, hein, ce qui est très important. Parce que là,
c'est grand.
Au niveau du chiffre d'affaires, c'est la partie la plus importante de la boutique, bien sûr. Hein. Et ben, c'est celle qui génère encore actuellement pas mal d'emplois, parce qu'il y a toujours en permanence entre 40 et 50 personnes.
Aujourd'hui, la production laitière est maintenue dans quelques exploitations moyennes et d'autres innovent sur des créneaux comme la production d'asperges ou de poulets élevés traditionnellement qui courent librement. Mais c'est une autre rupture avec les habitudes du passé qui frappe le plus les ouvriers. Écoutons-les.
Avant, ben, les patrons ne travaillaient pas.
Non.
Hein?
Oh là là.
Oh, ils jetaient le chapeau. Quand on allait à la Fonas pendant une demi-heure, puis...
Oh, oui, puis encore,
puis
hein.
Encore.
Puis après, c'est
maintenant,
vite,
maintenant
encore.
Ils travaillent parce qu'ils montent sur le tracteur.
Maintenant, les jeunes, oui, ils travaillent.
Mais là, avec le tracteur, c'est pas dur, hein.
C'est encore l'époque où l'agriculteur ne participait pas directement aux travaux des champs, hein, alors qu'actuellement, on voit les agriculteurs modernes, les jeunes, ils savent ce que c'est qu'un tracteur, ils travaillent, enfin pas, pas d'une façon aussi continue ni permanente qu'un chauffeur de tracteur, hein. Mais c'est efficient, hein. C'est une révolution.
Pour mieux comprendre la situation des jeunes agriculteurs du Valois, nous avons interrogé deux exploitants qui ont le même âge, 33 ans, et qui se sont installés la même année, il y a 5 ans. L'un exploite 340 hectares avec son frère et l'autre 175 hectares. Nous leur avons posé les mêmes questions. La première, à quel problème êtes-vous confronté aujourd'hui sur votre exploitation ? La seconde, dans la période actuelle, peut-on dire que se dessine un nouveau type d'exploitant ?
Le problème de tous les jeunes qui s'installent, celui d'avoir une situation économique difficile actuellement, des emprunts à rembourser, et une banque qui me sollicite de temps en temps. l'agriculture reste une profession liée au climat, et on s'aperçoit en ce début d'année que le climat n'est pas avec nous. On aimerait bien qu'il fasse un petit peu plus beau pour qu'on puisse travailler dans les champs.
Est-ce que vous avez encore des quotas de betteraves sur votre exploitation ?
Ah bah bien sûr, comme la plupart des exploitations de notre région, on a encore des quotas de betteraves. Et la betterave représente encore notre production principale, non pas en surface, mais en financier.
Vous faites combien d'hectares ?
Je fais 60 hectares de betteraves.
Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'être obligé de respecter un certain quota de friches ?
Ah, la jachère. La jachère est issue de la nouvelle réglementation agricole et correspond à un besoin de réduire nos productions en céréales. Donc ce n'est pas directement lié à la betterave. D'ailleurs, la betterave n'engendre pas de surface de jachère dans le système actuel. Les autres cultures sur jachère, oui, elles limitent la perte, c'est tout. Ça n'a que très peu d'intérêt, si ce n'est d'entretenir le sol et d'éviter l'érosion éventuellement. Enfin, les terres ne sont pas abandonnées. Mais comme de toute façon, nous n'avons pas le droit de laisser les jachères en friche, personnellement, je ne suis pas tellement pour ces cultures sur jachère, qui sont des cultures, des productions que l'on fait en dessous des rentabilités réelles. Je trouve ça aberrant.
Bon, sur un autre plan, peut-on dire aujourd'hui que se dessine, dans la période actuelle, un nouveau type d'exploitant ?
Pas vraiment, je pense que les agriculteurs évoluent comme toutes les autres professions et que naturellement on ne reste pas statique, donc c'est peut-être un petit peu nouveau, mais non, effectivement, si on était auparavant très individualiste, j'ai peut-être un petit peu l'impression qu'on commence à travailler un peu plus en commun, à être un peu plus ouvert vers d'autres solutions.
Lesquelles, par exemple ?
Ben, je vous parlais du travail en commun, c'en est une, de travail par entreprise, retour de l'entreprise, qui avait un petit peu disparu en agriculture, l'entreprise de travaux agricoles. Et puis, pour des structures de moindre importance, de la double activité.
Vous pourriez développer un tout petit peu justement ce problème du retour à l'entreprise et du travail en commun, c'est sous quelle forme vous le faites ? Est-ce que vous revenez aux vieilles formes de CUMA ? Ou par quel moyen, ou d'association entre une ou deux exploitants, comment ça se passe ?
Ben, toutes les situations sont permises. Hein. Ça peut être effectivement la CUMA, ça peut être d'autres types d'associations.
Par exemple ?
Ben, dans mon cas, j'utilise une CUMA, oui, effectivement. D'accord. Qui permet de mieux gérer le matériel.
Est-ce que ça veut dire que vous allez vers une tendance à acheter moins de gros matériel ?
Non, je vais vers une tendance à en acheter plus. Encore plus.
Plus, mais utilisé à plusieurs ou comment?
Plus, mais utilisé à plusieurs. Donc,
spécialisé par
un matériel par plus capable, plus spécifique en fonction de son travail et plus utilisé. Si le matériel d'hier faisait 5000 heures, demain il en fera 10 ou 15 000.
Vous pouvez dire sur quel type de production vous faites ces efforts-là, ou c'est pour l'ensemble?
Toutes les productions.
Toutes les productions.
Parce que les matériels sont généralement quand même un petit peu polyvalents d'une production à l'autre.
Et par exemple, dans le cas de la betterave, si on retourne à la betterave, la nouvelle machine qui fait tout, là, celle qui
effeuille, arrache et charge. Oui, tout ça, oui. Ah, mais encore mieux, maintenant, il y en a une qui débarde aussi. La débardeuse, il y a une seule personne qui fait tout. Quoi. Qui effeuille, arrache, charge et débarde, ramène les betteraves en bout de champ. Tandis que jusqu'à maintenant, il y avait une machine et des remorques qui suivaient. Donc jusqu'à maintenant, il y avait un chantier à trois personnes, maintenant, il n'y en aura plus qu'une, voire deux. Maximum deux personnes sur le chantier.
Et ce type de machine, vous l'avez vous-même ou c'est quelque chose qui fait l'objet d'un travail en commun avec...
C'est forcément quelque chose qui fait l'objet d'un travail en commun. Individuellement, on ne peut pas amortir ce type de machine, ce n'est pas possible. Ou on la prend en entreprise, ou on en fait du travail en commun. Mais c'est... Ou alors il faut avoir une ferme énorme, énormément de betteraves. Ce n'est pas mon cas.
Et dans le, par exemple, quand vous parlez d'entreprise, vous pensez à quoi? Vous pensez à la CUMA de Nanteuil? Vous pensez à d'autres entreprises?
Oh bah, ou la CUMA ou d'autres entreprises, hein, ça n'a pas d'importance. Oui. Celle qui me fera le meilleur travail pour le meilleur prix.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez combien d'ouvriers?
Aujourd'hui?
Oui.
Nous en avons deux. Oui, il y en avait je ne sais pas combien il y a 20 ans ou 30 ans. Oui. Mais ça, c'est l'évolution logique.
Bien sûr.
Et à 30 ans sur la surface que j'exploite, on aurait peut-être pu vivre à 4 ou 5 familles. Aujourd'hui, ben, il y en aura 2.
Vous êtes agriculteur dans le Valois depuis 5 ans, vous avez 33 ans. Pouvez-vous nous dire à quel problème vous êtes confronté aujourd'hui sur votre exploitation?
Ben, le problème numéro un, c'est la rentabilité de l'exploitation. Étant donné que j'ai une exploitation sans quota de betteraves et sans quota légumier, les marges sur les cultures classiques, blé, escourgeon, colza, etc. sont très faibles. Et donc, on est confronté à une chute brutale des revenus. Et il faut trouver, pour mon cas, une activité extérieure ou il y a d'autres, il y a de mes collègues dont la femme travaille, par exemple.
Vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas de quota de betterave?
Bon, c'est historique. C'est dû à une décision de mon grand-père il y a plus de 30 ans, 35 ans. Qu'il n'a pas jugé intéressant à l'époque de prendre des quotas de betteraves. Et mon père, quand il a repris la ferme en 1960, a totalement arrêté la production. Et ultérieurement, il a été impossible de reprendre des quotas puisque c'était un peu une rente, si on peut dire, pour les agriculteurs déjà, qui en avaient déjà quoi, des betteraves.
Et c'est impossible, comme par exemple pour le lait, de racheter des quotas ou de...
Non, actuellement, c'est les sucreries qui distribuent les quotas et il est impossible de avoir du quota à l'heure actuelle.
Peut-on dire que dans la période actuelle, on est devant un nouveau type d'exploitant?
Oui, tout à fait. D'une part, l'exploitant n'a plus d'ouvriers ou très peu en général, donc il travaille lui-même. Alors qu'avant, il restait plutôt au bureau, il prenait des décisions. Actuellement, il est surtout sur le terrain. Il y a un problème vis-à-vis des décisions à prendre, puisqu'il faut réagir maintenant rapidement, s'informer le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps, travailler, etc. Alors la solution, certains ont des femmes qui travaillent, et les hommes travaillent sur l'exploitation. Et d'autres, comme moi, on commence une double activité pour ramener de la trésorerie sur l'exploitation.
Mais travailler voulait dire physiquement conduire un tracteur, faire les travaux agricoles.
Oui, oui, tout à fait. Avant, c'était une ferme comme la mienne. Aussi loin que je me souvienne, il y avait 5 ouvriers. Actuellement, je suis tout seul.
Quand vous parlez de double activité, à quoi faites-vous allusion ?
Eh bien, j'ai une activité forestière en complément de mon activité agricole. Je gère des forêts pour des propriétaires privés qui m'en confient la garde et les expertises, les ventes de bois, les marquages de bois, tout ce qui concerne la gestion de la forêt, en fait.
Et vous aviez fait une formation pour ça ?
J'ai fait une formation pour adultes après mon service militaire pour rentrer dans ce métier-là, oui.
Sur quel rayon ça, vous faites ça ?
Bah, du fait de la double activité, ça ne me permet pas d'avoir rayonné très très loin, mais enfin je rayonne quand même sur une centaine de kilomètres autour de chez moi. Alors cette activité-là me prend à peu près un quart à un tiers de mon temps dans l'année étant à augmenter, et financièrement elle est plus lucrative que l'agriculture, puisqu'elle me rapporte presque la moitié de mon chiffre d'affaires amené à la journée travaillée.
C'était « L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien ». Aujourd'hui, l'évolution des grandes exploitations betteravières. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois. Une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.